Chapitre 3. Deux mois s'étaient écoulés ainsi, sans que personne eût conçu le moindre soupçon sur ce qui s'était passé, lorsqu'un matin, avant l'heure habituelle du déjeuner, le général fit prier sa fille de descendre chez lui. Malinka tressaillit de crainte, car depuis la nuit fatale, tout lui était un sujet de terreur. Elle n'en obéit pas moins à son père, et rappelant toute sa force, elle s'achemina vers son cabinet. Le comte était seul, mais au premier coup d'œil, Vaninka vit bien qu'elle n'avait rien à craindre de cette entrevue. Le général l'attendait avec cette expression paternelle qui, toutes les fois qu'il se trouvait en face de sa fille, devenait le caractère particulier de sa physionomie. En conséquence, elle s'approcha avec son calme habituel, s'inclina devant le général et le lui donna son front à baiser. Celui-ci lui fit signe de s'asseoir et lui présenta une lettre toute ouverte. Vaninka, étonnée, regarda un instant son père, puis reporta les yeux sur la lettre. Elle contenait la nouvelle de la mort de l'homme auquel sa main avait été engagée. Il venait d'être tué en duel. Le général suivait sur le visage de sa fille l'effet de la lecture, et quelque puissance que Vaninka eut sur elle-même, tant de pensées différentes, tant de regrets douloureux, tant de remords poignants vinrent l'assaillir en songeant qu'elle était redevenue libre, qu'elle ne put entièrement dissimuler l'émotion qu'elle éprouvait. Le général s'en aperçut et l'attribua à l'amour qui soupçonnait depuis longtemps sa fille d'avoir pour le jeune aide-de-camp. « Allons, dit-il en souriant, je vois que tout est pour le mieux. » « Comment cela, mon père ?» demanda Vaninka. « Sans doute, continua le général, Fédor ne s'est-il pas éloigné parce qu'il t'aimait ?»« Oui, murmura la jeune fille. » « Eh bien maintenant, dit le général, il peut revenir. » Vaninka resta muette, les yeux fixes et les lèvres tremblantes. « Revenir ? » dit-elle au bout d'un instant. « Sans doute, revenir. Ou nous aurons bien du malheur, continua le général en souriant, ou nous trouvons bien dans la maison quelqu'un qui sache où il est. Informe-t'en, Vaninka. Dis-moi le lieu de son exil et je me charge du reste. « Personne ne sait où est Fédor, murmura Vaninka d'une voix sourde. « Personne que Dieu, personne. » « Et quoi ? » s'écria le général. « Il n'a pas donné de ses nouvelles depuis le jour où il a disparu ?» Vaninka secoua la tête en signe de négation. Elle avait le cœur si effroyablement serré qu'elle ne pouvait plus parler. Le général, à son tour, devint sombre. « Craindrais-tu donc quelque malheur ?» dit-il à Vaninka. « Bon, je crains qu'il n'y ait plus de bonheur pour moi sur la terre !» s'écria Vaninka, succombant sous la force de sa douleur. Puis aussitôt, « Laissez-moi me retirer, mon père, continua-t-elle, j'ai honte de ce que j'ai dit. » Le général, qui ne vit dans cette exclamation de Vaninka que le regret d'avoir laissé échapper l'aveu de son amour, embrassa sa fille au front et lui permit de se retirer, espérant, malgré l'air sombre dont Vaninka avait parlé de Fédor, qu'il lui serait possible de le retrouver. En effet, il alla le jour même chez l'empereur et lui raconta l'amour de Fédor pour sa fille. Il lui demanda, puisque la mort l'avait délié de son premier engagement, de permettre qu'il disposât de sa main en sa faveur. L'empereur y consentit. Alors le général sollicita une nouvelle faveur. Paul était dans un séjour de bienveillance et se montra disposé à l'accorder. Le général lui dit que depuis 2 mois, Fédor avait disparu, que tout le monde et même sa fille ignoraient en quel lieu il était, et le supplia de faire des recherches. L'empereur fit venir à l'instant même le grand maître de la police et donna les ordres nécessaires. 6 semaines s'écoulèrent sans amener aucun résultat. Vaninka, depuis le jour de la lettre, était plus triste et plus sombre que jamais. Vainement, de temps en temps, le général voulait-il lui rendre quelque espoir. Vaninka alors secouait la tête et se retirait. Le général cessa de parler de feu d'or. Mais il n'en fut pas de même dans la maison. Le jeune aide-de-camp était aimé des domestiques, et à part Grégoire, il n'y en avait pas un seul qui lui voulût du mal. Aussi, depuis qu'on avait appris qu'il n'avait point été envoyé en mission par le général, mais qu'il avait disparu, cette disparition était-elle l'objet éternel de la conversation de l'antichambre, de la cuisine et de l'écurie. Et il y avait encore un autre lieu où l'on s'en occupait fort, c'était au Cabaret Rouge. Depuis le jour où il avait connu ce départ mystérieux, Grégoire s'était repris à ses soupçons. Il était sûr d'avoir vu entrer Féodor chez Vaninka, et à moins qu'il n'en fût sorti, pendant quoi qu'il s'en était allé chercher le général, il ne comprenait pas comment ce dernier ne l'avait point trouvé chez sa fille. Une chose aussi le préoccupait, qu'il paraissait peut-être bien avoir quelque coïncidence avec cet événement. C'était la dépense que faisait Ivan depuis cette époque, dépense bien extraordinaire chez un esclave. Mais cet esclave était le frère de la sœur de lait, chérie de Vaninka. De sorte que, sans en être sûr encore, Grégoire soupçonnait déjà la source de cet argent. Une chose le confirmait encore dans ses soupçons, c'est qu'Ivan, qui était resté non seulement son plus fidèle ami, mais encore était devenu une de ses meilleures pratiques, ne parlait jamais de Fédor, se taisait quand on en parlait devant lui. S'il était interrogé, ne faisait aux interrogations si pressantes qu'elles fussent, que cette réponse laconique « Oh, parlons d'autre chose !» Sur ces entrefaites, le jour des rois arriva. C'est un grand jour à Saint-Pétersbourg que le jour des rois, car c'est en même temps le jour de la bénédiction des eaux. Comme Vaninka avait assisté à la cérémonie et qu'elle était fatiguée d'être restée debout pendant 2 heures sur la Neva, le général ne sortit pas le soir et donna congé à Ivan. Ivan profita de la permission pour aller au Cabaret Rouge. Il y avait foule chez Grégoire, et Ivan fut le bienvenu dans l'honorable société, car on savait qu'il arrivait ordinairement les poches pleines. Cette fois, il ne manquait pas à ses habitudes, et à peine fut-il arrivé qu'il fit sonner les 100 kopecks à la grande envie des assistants. À ce bruit indicateur, Grégoire, une bouteille d'eau-de-vie à chaque main, accourut avec d'autant plus d'empressement qu'il savait bien que lorsque c'était Ivan l'amphitryon, il y avait, lui, Grégoire, un double profit, comme fournisseur et comme convive. Ivan ne fit point défaut à cette double espérance, et Grégoire fut invité à prendre sa part de la consommation. La conversation tomba sur l'esclavage, et quelques-uns de ces malheureux, qui trouvaient à peine pour se reposer de leurs fatigues éternelles 4 jours dans l'année, se récrièrent bien haut sur le bonheur dont jouissait Grégoire depuis qu'il avait obtenu sa liberté. « Bon !» dit Ivan, que l'eau de vie commençait à réchauffer, « il y a des esclaves qui sont plus libres que leurs maîtres. »« Que veux-tu dire ?» demanda Grégoire en lui versant un nouveau verre d'eau de vie. « Je voulais dire plus heureux, » reprit vivement Ivan. « Mais c'est difficile à prouver, » dit Grégoire d'un ton de doute. « Pourquoi cela ? Nos maîtres, à peine sont-ils nés, qu'on les mette entre les mains des 2 ou 3 pédants, l'un français, l'autre allemand, le troisième anglais. Et qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas, il faut qu'ils restent dans leur société jusqu'à l'âge de 17 ans, et que, bon gré mal gré, ils apprennent 3 langues barbares aux dépens de notre belle langue russe, qu'il a quelquefois complètement oublié quand il sait les autres. Alors, s'il veut être quelque chose, il faut qu'il se fasse soldat. Et s'il est sous-lieutenant, il est esclave du lieutenant. S'il est lieutenant, il est esclave du capitaine. S'il est capitaine, il est esclave du major. Et cela ainsi va jusqu'à l'empereur, qui n'est l'esclave de personne. Mais qu'un beau jour, on surprend à table, à la promenade ou dans son lit, et qu'on empoisonne, qu'on poignarde ou qu'on étrangle. S'il suit la vie civile, c'est bien autre chose. C'est une femme qu'il épouse et qu'il n'aime pas. Ce sont des enfants qui lui viennent, il ne sait d'où, et dont il faut qu'il prenne soin. C'est la lutte éternelle à laquelle il est nécessaire qu'il se livre, s'il est pauvre pour nourrir sa famille, et s'il est riche pour ne pas être volé par son intendant et trompé par ses fermiers. Mais est-ce vivre cela? Tandis que nous, morbleu, nous naissons, c'est la seule douleur que nous coûtons à notre mère. Le reste regarde le maître. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous choisit notre état. État toujours facile à apprendre, à moins qu'on ne soit tout à fait une brute. Sommes-nous malades? Son médecin nous soigne gratis. Car ce serait une perte pour lui s'il nous perdait. Sommes-nous bien portants? Nous avons nos 4 repas assurés le jour. Un bon poêle sur lequel nous nous couchons la nuit. Devenons-nous amoureux? Jamais il y a d'empêchement à notre mariage, que si la promise ne vous aime pas. Et si elle nous aime, le maître lui-même nous invite à hâter ce mariage, car il tient à ce que nous ayons le plus d'enfants possible. Et ces enfants viennent-ils? On fait à leur tour pour eux ce qu'on a fait pour nous. Trouvez-moi beaucoup de grands seigneurs, aussi heureux que leurs esclaves. Oui, oui, murmura Grégoire en lui versant un nouveau verre d'eau de vie. Mais avec tout cela, tu n'es pas libre. Libre de quoi? Demanda Ivan. Ben, libre d'aller où tu veux, quand tu veux. Moi, ben, libre comme l'air, répondit Ivan. Fanfaron, dit Grégoire. Mais libre comme l'air, te dis-je. Car j'ai le bon maître et surtout une bonne maîtresse, continua Ivan avec un sourire étrange. Je n'ai qu'à demander, c'est fait. Comment? Si après t'être grisé aujourd'hui chez moi, tu demandais à revenir te griser demain, reprit Grégoire, qui tout en portant un défi à Ivan n'oubliait pas ses intérêts. Si tu demandais cela, je reviendrai, dit Ivan. Tu reviendrais demain? Dit Grégoire. « Mais demain, après-demain, tous les jours, si je voulais. »« Ah, le fait est qu'Ivan est le favori de mademoiselle, » dit un autre esclave du comte qui se trouvait là et qui profitait de la libéralité de son camarade Ivan. « C'est égal, » dit Grégoire. « En supposant qu'on t'accorde de pareilles conditions, l'argent manquerait bientôt. »« Jamais, » dit Ivan, en avalant un nouveau verre d'eau de vie. « Jamais l'argent ne manquera à Ivan, qui aura un copec dans la bourse de mademoiselle. »« Bon, je ne la savais pas si libérale, » dit aigrement Grégoire. « Oh, tu n'as pas de mérite, de mémoire, l'ami. Quand tu sais bien qu'elle ne compte pas avec ses amis, t'es moins les coups de clout. »« Non, je ne voulais pas parler de cela, » reprit Grégoire. « Des coups, je sais bien qu'elle en est prodigue, mais de son argent, c'est autre chose. » car je n'avais jamais vu la couleur. « Eh bien, veux-tu voir la couleur du bien ?» dit Ivan, se grisant de plus en plus. « Alors là, voilà, voilà des copecs, voilà des solos copecs, voilà des billets bleus qui valent 5 roubles, voilà des billets roses qui en valent 25. Et demain, si on voulait, on vous montrerait des billets blancs qui en vaudraient 50. À la santé de mademoiselle !» Et Ivan tendit de nouveau sa tasse, que Grégoire remplit jusqu'au bord. « Mais de l'argent, » dit Grégoire, poussant de plus en plus Ivan, « l'argent, compense-t-il le mépris ?»« Le mépris, » dit Ivan, « le mépris, mais qu'est-ce qui me méprise ? Est-ce toi parce que tu es libre ? La belle liberté ! Oh, j'ai pu être un esclave bien nourri, qu'un homme libre qui meurt de faim. »« Mais je dis le mépris de nos maîtres, » reprit Grégoire. Le mépris de nos maîtres, mais demande à Alexis, demande à Daniel, que voilà, si mademoiselle me méprise. Le fait est, dirent les deux esclaves interrogés, et qui tous deux étaient de la maison du général, qu'il faut qu'Ivan ait un charme, car on ne lui parle jamais que comme un seigneur. Parce qu'il est le frère d'Anouchka, dit Grégoire, et qu'Anouchka est la sœur de l'aide mademoiselle. C'est possible, dirent les deux esclaves. « Pour cela ou pour autre chose, » reprit Ivan, « mais enfin, c'est comme ça, et pas autrement. »« Oui, mais si ta sœur mourait, » dit Grégoire, « ah, Si ma sœur mourait, reprit Ivan, ce serait dommage, parce que ma sœur est une bonne fille. Allez, à la santé de ma sœur. Mais si elle mourait, ça changerait rien à la chose. C'est pour moi qu'on me respecte. Et on me respecte parce qu'on me craint, voilà. On craint le Seigneur Ivan, dit Grégoire en éclatant de rire. Il en résulte que si le Seigneur Ivan se lassait de recevoir des ordres et qu'il en donnait à son tour, on obéirait au Seigneur Ivan. Peut-être, dit Ivan. Il a dit peut-être, répéta Grégoire en riant plus fort. Il a dit peut-être, vous avez entendu, vous autres? Oui, dirent les esclaves, qui avaient tant bu qu'ils ne pouvaient plus répondre que par monosyllabes. Eh bien, je ne dis plus peut-être, maintenant je dis pour sûr. Oh, je voudrais bien voir cela, dit Grégoire, je donnerais bien quelque chose pour voir cela. Eh bien, on voit tous ces drôles-là qui boivent et qui s'enivrent comme des pourceaux, et tu le verras pour rien. Pour rien, dit Grégoire, tu plaisantes. Est-ce que tu crois que je leur donne à boire gratis? Eh ben voyons, pour combien peuvent-ils boire de ton atroce eau de vie d'ici à minuit, que t'es obligé de fermer ta bicoque? Ben, pour 20 roubles, à peu près. Mais on va la 30, allez, mêlez-la à la porte, et que nous restions entre nous. Mes amis, dit Grégoire en retirant sa montre, comme pour y regarder l'heure, il va être minuit, vous connaissez l'ordonnance du gouverneur. Ainsi, retirez-vous. Les Russes, habitués à l'obéissance passive, se retirèrent sans murmurer, et Grégoire se trouva seul avec Ivan et les deux autres esclaves du général. « Eh bien, nous voilà entre nous, dit Grégoire. Que comptes-tu faire ?»« Mais que diriez-vous, reprit Ivan, si malgré leur avancée, malgré le froid, et quoi que nous soyons des esclaves, mademoiselle quittait l'hôtel de son père et venait porter un toast à notre santé ?»« Oh bien, je dis que tu devrais profiter de cela, répondit Grégoire en haussant les épaules, pour lui dire d'apporter en même temps une bouteille d'eau de vie. » Il y en a probablement de meilleurs dans la cave du général que dans la mienne. Oh, il y en a de meilleurs, dit Ivan, un homme qui en était parfaitement sûr. Et mademoiselle en apportera une bouteille. T'es fou, dit Grégoire. Il est fou, répétèrent machinalement les deux autres esclaves. Ah, je suis fou, dit Ivan. Eh bien, tiens, tiens-tu le pari? Que paries-tu? Une assignation de 200 roubles. « Contre une année à boire, chez toi, à discrétion. »« Ça va, » dit Grégoire. « Mes camarades en sont-ils ?» demandèrent les deux moujiques. « Ils en sont, » dit Ivan. « Et à leur considération, nous réduirons le terme à 6 mois. Ça va-t-il »« Ça va, » dit Grégoire. Les deux parieurs se frappèrent dans la main l'un de l'autre, et la chose fut convenue. Alors, avec une confiance faite pour confondre les témoins de cette scène étrange, Ivan prit son cafetan fourré qu'il avait, en homme de précaution, étendu sur le poêle, s'en enveloppa et sortit. Et au bout d'une demi-heure, il reparut. « Eh bien !» s'écrièrent à la fois Grégoire et les deux autres esclaves. « Elle me suit !» dit Ivan. Les trois buveurs se regardèrent confondus. Mais Ivan reprit tranquillement sa place au milieu d'eux, versa une nouvelle rasade, et levant son verre, « Ah, mademoiselle, dit-il, c'est bien le moins que nous devions à sa comparsance de venir nous rejoindre par une nuit si froide et quand la neige tombe à flocons. Anouchka, dit une voix en dehors, frappe à cette porte et demande à Grégoire s'il n'aurait pas chez lui quelques-uns de nos gens. » Grégoire et les deux esclaves se regardèrent stupéfaits. Ils avaient reconnu la voix de Vaninka. Quant à Ivan, il se renversait sur sa chaise en se dandinant avec une impertinence miraculeuse. Anouchka ouvrit la porte et l'on put voir, comme l'avait dit Ivan, la neige qui tombait à gros flocons. « Oui, madame, dit la jeune fille, il y a mon frère et encore Daniel et Alexis. » Vaninka entra. « Mes amis, dit-elle avec un sourire étrange, on m'a dit que vous buviez à ma santé, et je viens vous apporter de quoi faire toast pour toast. Voici une bouteille de vieille eau-de-vie de France que j'ai choisie à votre intention dans la cave de mon père. Tendez vos tasses. Grégoire et les esclaves obéirent avec la lenteur et l'hésitation de l'étonnement, tandis qu'Ivan avançait son verre avec une parfaite effronterie. Vaninka versa elle-même à tous, bord à bord, et comme ils hésitaient à boire, « Allons, à ma santé, mes amis !» dit-elle. « Hurrah !» crièrent les buveurs, rassurés par le ton de douceur et de familiarité de la noble visiteuse, et ils vidèrent leur verre d'un seul trait. Vaninka le renversa aussitôt une seconde tasse, puis posant la bouteille sur la table, « Videz cette bouteille, mes amis, dit-elle, et ne vous inquiétez pas de moi. Nous allons, avec la permission de maître de la maison, attendre près du poêle. Anoucha et moi, que cette tempête soit passée. » Grégoire voulut se lever pour pousser les escabeaux près du poêle. Mais, soit qu'il fût complètement ivre, soit que quelque liqueur narcotique fût mêlée à l'eau-de-vie, il retomba sur son banc en essayant de balbutier une excuse. « c'est bien, dit Vaninka, que personne de vous ne se dérange. Buvez, mes amis, buvez !» Les convives profitèrent de la permission, et chacun avala le contenu de la tasse qui se trouvait devant lui. À peine Grégoire avait-il vidé la sienne, qu'il tomba sur la table. « Bien, dit Vaninka à demi-voix à sa suivante, « l'opium fait son effet. » « Mais quelle est votre intention ?» demanda Anouchka. « Tu verras tout à l'heure. » Les deux moudjiks ne tardèrent pas à suivre l'exemple du maître de la maison et à tomber à leur tour l'un à côté de l'autre. Ivan était resté le dernier, luttant encore contre le sommeil, essayant de chanter une chanson bachique. Mais bientôt, sa langue refusa de le servir. Ses yeux se fermèrent malgré lui, et tout en cherchant l'air qui le fuyait, tout en balbutiant des paroles qu'il ne pouvait prononcer, il tomba sans connaissance auprès de ses camarades. Aussitôt Vaninka se leva et fixa sur ses hommes un regard de flamme, puis ne s'en rapportant pas à ses yeux, elle les appela les uns après les autres par leur nom, mais sans qu'aucun d'eux répondît. Alors elle frappa ses mains l'une dans l'autre, et avec un accent joyeux, « Voici le moment, » dit-elle. Et s'en allant au fond de la chambre, elle y prit une brassée de paille qu'elle porta dans un angle de la pièce, en fit autant aux trois autres, et tirant une planche de sapin tout enflammée du poêle, elle mit le feu successivement aux quatre coins de la chaumière. « Mais que faites-vous ? » s'écria Anouchka au comble de la terreur et essayant de l'arrêter. « J'ensevelis notre secret sous la cendre, » répondit Vaninka. « Mais mon frère, mon pauvre frère !» s'écria la jeune fille. « Mais ton frère est un infâme qui nous avait trahis. Nous étions perdus si nous le perdions. Oh, mon frère, mon pauvre frère !»« Mais tu peux mourir avec lui !» dit Aninka en accompagnant cette proposition d'un sourire qu'il prouvait qu'il n'eût pas été fâché qu'Anouchka poussa jusque-là l'amour fraternel. « Mais voilà le feu, madame, voilà le feu !»« Sortons donc !» s'écria Vaninka. Et entraînant la jeune fille éplorée, elle ferma la porte derrière elle et jeta au loin la clé dans la neige. « Au nom du ciel, rentrons vite !» s'écria Anouchka. « Oh, je ne puis voir ce spectacle affreux !»« Restons, au contraire !» dit Vaninka en arrêtant sa suivante par le poignet avec une force presque masculine. « Restons jusqu'à ce que cette maison s'abîme sur eux, jusqu'à ce que nous soyons certaines que pas un n'en peut échapper !»« Oh, mon Dieu, Seigneur !» s'écria Anouchka en tombant à genoux. « Ayez pitié de mon pauvre frère !» car la mort va le conduire à vous avant qu'il ait eu le temps de se préparer à paraître en votre présence. « Oui, oui, prie, c'est bien, dit Vaninka, car c'est leur corps que je veux perdre, et non leurs âmes. Prie, je te le permets. » Et Vaninka resta debout, et les bras croisés, éclairés ardemment par la lueur de l'incendie, tandis que la suivante priait. L'incendie ne fut pas long. La maison était de bois, calfeutrée avec des étoupes, comme toutes les maisons des paysans russes. De sorte que la flamme, apparaissant aux quatre coins, s'élança bientôt dehors, et, excitée par la tourmente, ne forma plus au bout de quelques instants qu'un énorme bûcher. Vaninka suivait d'un œil ardent les progrès de l'incendie, tremblant toujours de voir s'élancer hors des flammes quelques spectres à demi brûlés. Enfin, le toit s'abîma, et Vaninka, libre de toute crainte, reprit alors seulement le chemin de l'hôtel du général, où, grâce à la faculté qu'avait Annouchka de sortir à toute heure du jour et de la nuit, les deux femmes rentrèrent sans être vues. Le lendemain, il n'était bruit dans Saint-Pétersbourg que de l'incendie du cabaret rouge. On retira de dessous les débris quatre cadavres demi-consumés, et comme trois esclaves du général n'étaient point rentrés, le général ne douta point que ces cadavres méconnaissables ne fussent ceux d'Ivan, de Daniel et d'Alexis. Quant au quatrième, il était certain que c'était celui de Grégoire. Les causes de l'incendie restèrent un secret pour tout le monde. La maison était isolée et le chasse-neige si violent que sur la route déserte, nul n'avait rencontré les deux femmes. Vaninka était sûre de sa suivante. Son secret était donc mort avec Ivan. Mais alors le remords prit la place de la crainte. La jeune fille, si inflexible en face de l'événement, se trouva sans force contre son souvenir. Il lui sembla qu'en déposant le secret de son crime dans le sein d'un prêtre, elle serait soulagée de cet effroyable fardeau. Elle alla donc trouver un pope connu pour sa haute charité et lui raconta, sous le sceau de la confession, tout ce qui s'était passé. Le prêtre demeura épouvanté à ce récit. La miséricorde divine est sans bornes, mais la rémission humaine a ses limites. Le pope refusa à Vaninka l'absolution qu'elle lui demandait. Ce refus était terrible. Il éloignait Vaninka de la sainte table. Cet éloignement serait remarqué et ne pourrait être attribué qu'à quelque faute inouïe ou à quelque crime inconnu. Vaninka tomba aux pieds du prêtre et au nom de son père, sur lequel sa honte retomberait en déshonneur, elle supplia d'adoucir la rigueur de ce jugement. Le pape réfléchit profondément, puis il crut avoir trouvé un moyen de tout concilier. C'était que Vaninka s'approcha de la table sainte avec les autres jeunes filles. Le prêtre s'arrêta devant elle, comme devant les autres, mais seulement pour lui dire « Priez et pleurez ». Et les assistants, trompés par ces démonstrations, croiraient que, comme ses compagnes, elle avait reçu le corps du Christ. Ce fut tout ce que Vaninka put obtenir. Cette confession avait eu lieu vers les 7 heures du soir, et la solitude de l'église, jointe à l'obscurité de la nuit, lui avait donné un caractère plus effrayant encore. Le pape rentra chez lui, pâle et tremblant. Sa femme Élisabeth l'attendait seule. Elle venait de coucher dans la chambre voisine sa petite fille Arina, âgée de 8 ans. En apercevant son mari, la femme jeta un cri d'effroi tant elle le trouva défait et changé. Le pape essaya de la rassurer, mais le tremblement de sa voix ne fit qu'augmenter ses terreurs. La femme voulut savoir d'où venait son émotion. Le pape refusa de le lui dire. Élisabeth avait appris la veille la maladie de sa mère. Elle crut que son mari avait reçu quelque fâcheuse nouvelle. Ce jour était un lundi, jour néfaste chez les Russes. En sortant le matin, Élisabeth avait rencontré une personne en deuil. C'était trop de présages réunis pour ne pas annoncer un malheur. Élisabeth éclata en sanglots en s'écriant « Ma mère est morte !» Le pape voulut en vain la rassurer en lui affirmant que son trouble ne venait point de là. La pauvre femme, préoccupée d'une seule idée, ne répondait à toutes les protestations que par ce cri éternel: « Ma mère est morte !» Alors, pour chasser cette espèce de vertige, le pape lui avoua que son émotion était née de l'aveu d'un crime qu'il venait d'entendre au confessionnal. Mais Élisabeth secoua la tête. C'était un artifice, disait-elle, pour lui cacher le malheur qui venait de l'atteindre. La crise, au lieu de se calmer, devint plus violente. Les larmes s'arrêtent, les convulsions se déclarent. Le prêtre alors lui fait jurer qu'elle gardera le secret, et le mystère sacré de la confession est trahi. La petite Alina s'est réveillée au premier cri d'Élisabeth, et inquiète et curieuse à la fois de ce qui se passe entre son père et sa mère, elle s'est levée, est venue écouter à la porte et a tout entendu. Ainsi, le secret de la faute est éteint, mais le secret du crime est connu. Le jour de la communion arrive. L'église de Saint-Siméon est pleine de fidèles. Vaninka vient de s'agenouiller devant la balustrade du chœur. Derrière elle est son père et ses aides-de-camp. Derrière ceux-ci, leurs domestiques. Arina est aussi dans l'église avec sa mère. L'enfant curieuse veut voir le Vaninka, dont elle a entendu prononcer le nom dans cette terrible nuit où son père a manqué au premier et au plus saint des devoirs imposés à un prêtre. Et pendant que sa mère rit, elle quitte sa chaise, se glisse entre les fidèles et parvient presque jusqu'à la balustrade. Arrivée là, elle est arrêtée par le groupe des domestiques du général. Mais Arina n'est pas venue si loin pour rester en route. Elle essaie de passer entre eux. Ils s'y opposent. Elle persiste. Un d'eux la repousse avec brutalité. Et l'enfant renversé va se heurter la tête à un banc et se relève toute sanglante en criant: Tu es bien fière pour un homme à barbe. Est-ce parce que tu appartiens à la grande dame qui a brûlé le cabaret rouge? Ces paroles, prononcées à haute voix et au milieu du silence qui précédait la sainte cérémonie, ont été entendues de tout le monde. Un cri leur répond: Vaninka vient de s'évanouir. Le lendemain, le général était aux pieds de Paul Ier et lui racontait, comme à son empereur et à son juge, toute cette longue et terrible histoire que Vaninka, écrasée sous la longue lutte qu'elle avait soutenue, lui avait enfin révélé pendant la nuit qui avait suivi la scène de l'église. L'empereur, après cet aveu étrange, resta un instant pensif. Puis, se levant du fauteuil où il était resté assis pendant tout le temps qu'avait duré la narration du malheureux père, il alla vers un bureau et écrivit sur un papier volant la décision suivante. Le pape ayant violé ce qui doit rester inviolable, c'est-à-dire le secret de la confession, sera exilé en Sibérie et déchu des fonctions du sacerdoce. Sa femme le suivra. Elle est coupable pour n'avoir pas respecté le caractère d'un ministre des autels. La petite fille ne quittera point ses parents. Annouchka, la femme de chambre, ira également en Sibérie, pour n'avoir pas averti son maître de la conduite de sa fille. Je conserve au général toute mon estime. Je le plains. Il m'afflige avec lui du coup mortel qui vient de le frapper. Quant à Vaninka, je ne connais aucune peine qu'on puisse lui infliger. Je ne vois en elle que la fille d'un brave militaire dont la vie fut toute consacrée au service de son pays. D'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la découverte du crime, semble placer le coupable hors des limites de ma sévérité. C'est elle-même que je charge de sa punition. Si j'ai bien compris ce caractère, s'il lui reste quelque sentiment de dignité, son cœur et son remords lui traceront la route qu'elle doit suivre.